Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario ! Ouais !
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious !
Il est espagnol, Rafael Nadal !
Coucou les légendes, bienvenue pour ce 47e épisode. Cette semaine, on part à la rencontre d'un des espoirs français les plus précoces de l'histoire, qui a fait partie des 50 meilleurs joueurs mondiaux dès ses 18 ans. Il s'agit de Thierry Tulane. Attendu comme le prochain numéro 1 mondial de son époque, Tutu, comme on le surnomme, a stagné. Il nous explique pourquoi en détail. Forcé d'arrêter très tôt, Tulane nous explique le terrible choix de se retirer du circuit, alors qu'il sentait enfin être à son top. On parle de ses prédispositions physiques et de la manière dont son mental s'est construit autour de cette force, ainsi que de son service qu'il a bossé comme un forcené pour devenir une arme majeure de son jeu, alors que notre invité ne mesure entre guillemets qu'1m78. Thierry nous confie d'où vient selon lui la flamme intérieure qui l'a conduit à devenir un des plus beaux palmarès du tennis français. Il nous parle de l'autorité que pouvait avoir sur lui son grand frère de l'époque Yannick Noah, qui certes l'a intimidé au changement de côté, mais l'a surtout inspiré à déplacer des montagnes lors de sa carrière. Tutu nous explique ce que ça fait de battre un numéro 1 mondial, et on le sait tous, ça n'est pas donné à tout le monde. Plongé dans un temps où le tennis rimait avec show business, quand les stars de l'époque, au charisme hors norme, roulaient en Rolls-Royce, toujours accompagnés de belles nanas, les dîners étaient partagés avec les Rolling Stones, Sting ou autres stars de passage. Enfin, notre invité nous confie le meilleur conseil qu'il a reçu en carrière, celui d'une légende du tennis français, l'ancien mousquetaire Henri Cochet. Ces cadeaux, faites-en bon usage. Assez parlé de mon côté, place au 47e épisode. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Thierry, tu es né un 12 juillet 1963 à Aix-les-Bains. Tu es l'un des plus beaux palmarès du tennis français, notamment chez les jeunes. Tu as été champion du monde junior en 1980. Juste avant ça, tu avais intégré l'INSEP en 76 avec notamment Henri Lecomte, Jérôme Poitier et Loïc Courtois. À 16 ans et demi, tu as battu Vitas Gerulatis aux internationaux d'Italie avant de devenir champion du monde junior justement en gagnant Wimbledon cette année-là. Tu as été 10e joueur au monde en 1986. Tu as joué 450 matchs sur le circuit avec un ratio positif de justesse de 228 victoires pour 222 défaites. Tu as eu 5 titres, Bastad en 80, Bologne, Palerme et Barcelone en 85 en battant Villander en 5-7 en finale. Grosse année en 85 et Metz en 86. Tu as notamment fait 6 finales de plus. En 85 et 86, tu termines l'année 3e français derrière Lecomte et Noah. C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé pour ta présentation, on va dire, en tant que joueur. Est-ce que tu juges important d'ajouter une ou deux infos cruciales ?
Non, c'est assez complet. Mais en fait, j'ai arrêté ma carrière assez tôt, à l'âge de 27 ans, à cause d'une coxarthrose. Donc, j'aurais aimé jouer plus longtemps et surtout plus longtemps au haut niveau dans les 20 premiers mondiaux. On peut rajouter que j'ai participé à l'aventure de 82 en équipe de France. On avait perdu la finale à Grenoble contre les États-Unis. J'avais joué tous les matchs avant la finale et malheureusement pas la finale. C'est juste ça. Et j'ai joué avec l'équipe de France pendant 10 ans. Ça aussi, c'est une grande fierté parce que c'est vraiment, ce sont les matchs et les souvenirs qui restent, les matchs en Coupe Davis.
Est-ce que tu peux juste nous préciser ce qu'est la blessure qui a forcé l'arrêt de ta carrière?
Une usure de l'articulation de la hanche, ça s'appelle une coxarthrose. Et j'ai dû m'arrêter soudainement parce que j'avais trop mal et je pouvais plus m'entraîner correctement. Et du coup, mon niveau baissait. Et les docteurs m'ont dit, plutôt que de m'abîmer, il fallait que j'arrête de jouer.
Pour reprendre la chronologie de ta carrière, quel regard déjà tu portes sur les 3 années fastes que tu as eues en termes de résultats, à savoir 85, 86 et peut-être même 87.
Pour reprendre un peu l'historique, en fait, moi, j'ai été très précoce. J'avais battu Vitas Gerulatis, qui était deuxième ou troisième joueur mondial, quand j'avais pas encore 17 ans à Rome, et ouais. Je suis rentré très rapidement avant 18 ans dans les 100 premiers mondiaux, dans les 50 premiers. J'ai gagné mon premier tournoi en 81 et je suis né en 63, donc j'avais juste 18 ans. Et tout le monde, et moi y compris, pensait que j'allais faire une carrière comme Borg en gagnant des grands chelems. Et j'ai été ralenti par peut-être ce manque de talent, tout simplement. J'avais un peu cette inconscience qu'ont les jeunes. Je pensais que j'allais continuer de progresser jusqu'à devenir numéro un mondial. Et à un moment, j'ai été un peu freiné lorsque je suis arrivé dans les 30, dans les 20. Et en fait, ce qui a été un déclic pour moi, je bloquais, j'arrivais dans les 30 premiers, j'arrivais plus à progresser. Et ce qui bloquait, c'est que moi, j'étais fan de Borg à l'époque. Et Borg, ça a été vraiment le dernier joueur à jouer avec des petites raquettes en bois. Et on avait le même fabricant de raquettes.
À savoir.
Ouais, Donnet. Les raquettes données. Donc lui, il avait la Borg Pro, Björn Borg, et puis moi, j'avais la Thierry Tulane. J'avais mes machines qui fabriquaient mes raquettes. Et donc, j'étais très attaché à ça. Et le fait, lorsque tous les joueurs du circuit sont passés sur des raquettes en carbone ou avec une fabrication beaucoup plus, avec un rendement beaucoup plus important. Moi, j'ai continué, j'ai suivi Borg, j'ai continué à jouer avec des petites raquettes en bois, et ben, je me faisais doubler par tout le monde parce que vraiment, ça a changé du tout au tout le tennis. Le tennis, c'est devenu plus puissant. Grâce aux grandes raquettes, on arrivait à mieux contrôler la balle, à jouer plus fort, à retourner mieux, à mieux servir. Donc, dès que j'ai changé de raquette, en fait, ça a été vraiment en même pas un an, j'ai eu un déclic et c'était en 85 et 86. Lorsque je suis passé à un matériel plus moderne, j'ai repris ma progression et puis qui a été arrêtée par cette blessure à la hanche, malheureusement, parce que c'est vers l'âge de 23-24 ans qu'on commence à vraiment se sentir très équilibré sur un court de tennis. Moi, lorsque je suis arrivé sur le circuit, j'étais dans ma bulle, j'étais inconscient, j'avais cette espèce de surconfiance qu'ont les jeunes quand ils arrivent et je connaissais pas très bien les enjeux du circuit, les points ATP, l'argent, tout ça. C'était moi, ce que j'avais qu'une idée en tête, c'était battre mon adversaire. C'était vraiment un super état d'esprit. Et petit à petit, en fait, on se laisse un petit peu polluer par ce que pensent les gens, le regard des autres, etc. Et du coup, ça m'a vraiment mis beaucoup de pression, comme la plupart des jeunes. Et cette pression-là, j'ai réussi à la maîtriser à l'âge de 22-23 ans avec la maturité. Et malheureusement, à 26 ans, 27 ans, lorsque j'étais vraiment mentalement à mon top, j'ai commencé à apprécier de jouer sur des grands courts sans me mettre plus de pression, partageant en fait l'énergie avec le public. C'est là où j'ai dû arrêter, malheureusement. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, j'ai envie les joueurs qui jouent après leur 30e année, parce que ce sont les années où on maîtrise le mieux tous les éléments du circuit, notamment quand on est sur le terrain. On maîtrise ses émotions, on maîtrise le public, on arrive à partager davantage aussi. Et ce sont les plus belles années après 30 ans.
Ça a été compliqué pour toi, le changement de matériel, de t'adapter à ces nouvelles technologies?
Pas tellement, non. Non, c'était vraiment... J'ai l'impression que c'est comme si on passe d'un karting à une Formule 1. C'est vraiment lorsqu'on tape les premières balles, on se dit waouh, ça part, je vais jamais pouvoir contrôler. Et ouais. Et puis très rapidement, on apprivoise ce rendement-là et ça change le jeu, ça change tout. Comme pour tous les joueurs, en fait, tous les joueurs se sont très bien adaptés.
Borg a pris le virage plus rapidement que toi sur les nouvelles raquettes ou il est resté lui aussi à l'ancien modèle?
Lui, en fait, il s'est obstiné et finalement, il a arrêté sa carrière avec les petites raquettes. En fait, je pense que ça a été un des éléments qui a accéléré la prise de décision pour sa retraite. Et lorsqu'il est revenu la première fois, il est même revenu, je crois que c'est 2 ou 3 ans après, avec sa petite raquette. Donc, il avait l'air un peu ridicule parce que tout le monde jouait avec des nouvelles raquettes en graphite, en carbone. Et lui est revenu avec sa petite raquette à Monte Carlo. Je me souviens, et dans son deuxième comeback, il a adopté la nouvelle raquette, mais bon, là, je pense qu'il s'était pas bien préparé, et puis bon, il s'est fait dépasser par tout le monde, donc il avait perdu assez facilement contre Arezé. Je crois la première fois c'était contre Lecomte, et la deuxième fois contre Arezé. Donc lui, en fait, il a jamais vraiment joué avec les nouveaux matériaux.
Comment t'as commencé le tennis, et qu'est-ce que t'as ressenti en tapant tes premières balles? Tu t'en souviens de ça?
Je m'en souviens très très bien. J'ai commencé le tennis, au mur. Parce qu'à l'époque, dans les années, la fin des années 60, le tennis était un sport vraiment pour les gens aisés et surtout pas pour les enfants. Donc, nous, les enfants, on avait le droit, si on s'inscrivait à l'école de tennis, de jouer le jeudi, une heure par semaine, et le reste du temps, on pouvait seulement jouer au mur ou sur le parking du club. Donc, mon père s'étant mis au tennis, il m'a offert une raquette, je me rappelle, à Noël, et j'ai commencé à taper au mur, et ça me plaisait beaucoup, ça me plaisait énormément, cette sensation. Pourtant, c'est pas très ludique, le mur, mais cette sensation de persévérance, de taper 10 coups de suite, 20 coups de suite, 30 coups de suite sans rater, en essayant de mettre la balle dans une cible, je sais pas, c'est un truc que j'ai découvert de tout petit, qui m'est resté, cette espèce d'abnégation, de persévérance sur un objectif assez précis. Et voilà. Et puis, je me rappelle de quelques matchs que j'ai vus à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tennis à la télé. Mais ça me faisait rêver, en fait, de voir ces joueurs sur des grands courts avec du monde autour. Ça m'a fait rêver. Et puis, bon, très rapidement, mon père m'a inscrit au tournoi du club et j'ai gagné la coupe. Ça aussi, je me rappelle très, très bien. Je me rappelle de. C'est marrant parce qu'en fait, par la suite, je suis devenu président de ce club-là et il y a toujours le mur et je tiens à le garder parce que c'est là où j'ai mes souvenirs et je pense que c'est important pour les enfants de passer du temps à taper la balle au mur. Et donc voilà, j'ai gagné ma première coupe et ça m'a sûrement valorisé vis-à-vis, enfin, dans le regard de mes parents, le regard de mon frère et de ma sœur. C'est quelque chose que je sentais positif pour moi. Je pense que c'est tout un ensemble. Il y a aussi le côté, bien sûr, plaisir de ce sport, mais aussi par rapport au regard des autres, je pense que c'est quelque chose qui m'a donné envie. Je me suis dit, tiens, là, je suis un peu différent des autres. Voilà.
Si vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa ou un commentaire sur YouTube ainsi qu'un like tout de suite. Ça nous permet d'améliorer le référencement et c'est toujours un grand plaisir de vous lire. Sachez que vous avez accès à 2 formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barraud. La seconde regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100. Ça va enfin vous permettre de jouer plus relâché sur un court de tennis. Allez, on y retourne.
À quel moment ça a commencé à devenir sérieux et tu as eu envie peut-être d'un sport étude, d'enchaîner les matchs, tout ça? Comment ça s'est enchaîné?
À la fédération, il y avait une personne qui s'appelle Yvon Petra, qui a gagné Wimbledon. Je crois le dernier Français à avoir gagné Wimbledon, Yvon Petra, qui a été missionné par la fédération pour faire le tour de France des clubs et essayer de repérer les bons éléments pour lesquels on pourrait payer des entraînements supplémentaires. Et cette personne-là est venue dans mon club et est venue me voir jouer avec mes copains. Et lui, en fait, il a été emballé par, surtout, je pense, par mon envie et peut-être aussi un peu mes qualités physiques. J'étais assez précoce physiquement, j'avais 13 ans. Et donc, en fait, cette année des 13 ans, en fait, pendant 6 mois, ils m'ont donné une bourse pour m'entraîner une fois de plus avec l'entraîneur du club. Et puis, très rapidement, après l'été, la fédération m'a proposé de venir en sport-études à l'INSEP. Il y a eu la création pour la première fois d'un sport-études par la fédération. Et donc, j'ai pu intégrer cette première session de sport-études à l'INSEP. Je crois que c'était en 76 ou 77, avec plein de joueurs qui sont devenus forts. Guy Forget, Jérôme Potier, Henri Lecomte, Loïc Courtois, Tariq Benhabiles, je me rappelle, c'était donc voilà, à 13 ans, on était tous à l'INSEP, on partait de chez nous et on était partis pour l'aventure.
C'est marrant que tu parles de prédisposition physique parce que je suis tombé sur une interview en 85 au micro de France Télé pendant Roland où tu dis voilà, je suis en train de me refaire une confiance et pour ça, il n'y a pas de secret, je travaille énormément pour notamment me faire une caisse physique parce qu'on sent que tu as peut-être une différence justement physique par rapport aux autres à combler avec un jeu de fond de cours qui nécessite pas mal d'énergie. Et tu avais l'air de dire qu'au tout départ, tu avais pas mal de prédispositions de ce point de vue-là. Comment ça a évolué au fil de ta carrière?
Alors moi, très très rapidement, à l'adolescence et après quand je suis devenu mature adulte, je me suis rendu compte que physiquement, j'étais plus fort que les autres. En endurance, en vitesse, même en puissance, pour les appuis et tout ça. Donc c'était la base en fait de ce que je ressentais de plus fort que les autres. Lorsque j'entraîne un joueur, et ça a toujours été ça, c'est de s'appuyer sur ses forces, tout en essayant de gommer ses faiblesses. Mais moi, ma force principale, c'était mon physique, mon jeu de jambes, ma capacité à fatiguer mes adversaires. Et ça, je l'ai compris très très tôt. Et en travaillant le plus dur possible physiquement, en essayant d'optimiser mes qualités physiques, je me sentais très confiant, de plus en plus confiant. Donc, c'était vraiment... pour être fort physiquement, il faut travailler dur. Et donc, ça, c'était la base de mon travail. Et peut-être un petit peu bêtement, je me suis focalisé sur mes qualités physiques et un tout petit peu moins sur ma technique et mes schémas de jeu. Alors mes schémas de jeu, je les ai bien développés une fois que j'ai acquis la maturité avec mon coach. On a travaillé là-dessus, mais techniquement, lors de mes plus jeunes années, on n'a pas été assez pointu. Et peut-être que j'avais pas aussi suffisamment ce talent de la main qu'a par exemple Henri Lecomte ou Guy Forget, naturel. Moi, j'ai tout fait avec le travail, avec la répétition, et donc voilà, c'était surtout la base de mon succès, entre guillemets, en restant modeste, c'était par rapport à mes qualités physiques.
Et en termes de coups à proprement parler, ton coup fort, c'était quoi?
J'avais un super lift, en fait. Je gênais beaucoup de mes adversaires avec cette capacité à faire tourner la balle, à trouver des angles, sortir l'adversaire du court et pouvoir attaquer dans l'ouverture. Donc c'était surtout ça. J'avais un très très solide jeu de fond de court. Et puis lorsque je suis monté, ce qui m'a fait décoller au classement et monter dans les 10 premiers, c'est l'amélioration de mon service. J'avais une très bonne première balle quand je jouais bien. Mais c'est surtout mes qualités de fond de court, ma couverture de terrain et fatigue mon adversaire.
Et ce qui est ouf, tu parles du service, c'est que tu fais 1m78 et donc t'es pas forcément géant quoi pour les standards du tennis actuel. Et tu parles de qualité physique et de ton service qui était très bon. Ça représente quoi comme volume de travail à l'époque, justement l'entraînement physique et le service aussi? Comment tu le bossais et à quelle fréquence pour que ça devienne une arme? Et
moi, je travaillais très facilement tout ce qui dépendait de moi. Donc le service, en fait, en plus des autres, à l'INSEP, je prenais mon panier de balles et tous les soirs, j'allais faire une heure de service. Dès que je pouvais, je faisais du service. Et c'est pareil pour l'entraînement physique. En plus des autres, j'allais courir tous les matins. Comme je pouvais pas courir le matin, je courais le soir. J'essayais de faire toujours un peu plus. Et c'est l'entraînement physique, on peut le faire seul. Le service, on peut le faire seul. On n'a pas besoin même de coach. Donc j'essayais d'en faire le plus possible et ça fonctionne. Hein. Plus on travaille, et plus on progresse. Donc c'est en termes de volume, j'en faisais presque tous les jours des paniers de service. Ça durait une demi-heure, ça durait trois quarts d'heure. Je me rappelle que je m'étais fixé avec mon coach Eric De Blicquer à l'époque le soir ou à la fin de presque chaque entraînement, il mettait des cibles sur toutes les lignes du carré de service. Et donc, il y en avait 6 en tout et il fallait que je tombe les 6 cibles. Il mettait des boîtes de balles, en fait, pour représenter les cibles. Et il fallait que je tombe les 6 cibles avant d'arrêter l'entraînement. Donc, parfois, lorsque j'étais fatigué, j'y arrivais pas. Et des fois, je mettais une heure et demie à toucher la sixième, j'y arrivais pas. Mais on n'arrêtait pas tant que j'avais pas touché. Donc, je me rappelle de choses comme ça. Mais ça me plaisait beaucoup, hein, cette espèce de persévérance comme ça pour progresser.
Comment t'expliques qu'aussi jeune, t'avais la foi d'aller courir le matin tout seul?
Je crois que j'avais une envie démesurée d'exploiter tout mon potentiel. J'avais ça en moi, presque d'une manière un peu autiste. Il y avait que ça qui m'obnubilait. Je mangeais tennis, je dormais tennis, je courais tennis. Toute ma vie, de la première minute, même la nuit, je rêvais tennis. Et c'était vraiment quelque chose qui était... j'étais habité par ça. Et je ne l'explique pas. C'est un espèce de rêve. Il faudrait que je travaille avec un psychologue ou un psychiatre pour comprendre d'où ça vient. Je pense qu'il y a une partie aussi, le regard des autres, être valorisé par le regard des autres, le fait de réussir quelque chose de différent, quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Ça, surtout, ça m'a mû à l'époque, quand j'étais plus jeune, mais j'ai toujours eu ça en moi. Et même encore aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, ça m'habite encore. C'est fou, hein, lorsque même je coach un jeune junior. Non, mais même aujourd'hui en tant qu'entraîneur, lorsque je coach sur le circuit junior, par exemple, je stresse pour préparer les matchs, je stresse pendant les matchs. La victoire, je la vis comme à chaque fois comme un plaisir et un sentiment du devoir accompli qui me met en joie incroyable. Et à l'inverse, la défaite me tue. C'est un truc qui m'a, comme depuis le début, comme depuis que j'ai 8 ans. Tout me plaît, tout me touche dans le tennis.
Tu disais que tu vivais tennis, tu respirais tennis, ça veut dire que tu draguais des meufs du tennis aussi uniquement, ou t'avais pas la tête du tout à ça?
Bah, à l'époque, dans les années donc 80, c'était donc à l'INSEP, c'était plutôt les autres sportives. Et non, dans les années 80, c'était moi. Je me suis déjà, il y avait beaucoup de fans qui gravitaient autour de. Donc je suis jamais sorti avec une joueuse de tennis, d'autant plus que j'ai rencontré ma femme assez jeune, à l'âge de 17 ans, et on est à l'école ensemble, et je suis toujours aujourd'hui avec elle, donc, et pas trop de drague.
Juste pour revenir très rapidement, il y avait une question qui me revenait sur la raquette Thierry Tulan. Elle était commercialisée dans le grand public?
Ouais, c'était un truc énorme. Elle était faite pour les petits, pour les ados, pour les grands. Elle était dans les supermarchés. Donc pendant 2-3 ans, et moi j'étais payé, j'avais un contrat de dingue, j'avais des royalties sur chaque raquette vendue parce qu'il y avait c'était la TT, il y avait mon nom dessus. J'avais des chaussures aussi à un moment, enfin c'était vraiment, et finalement ça m'a pas tellement rendu service parce que je me sentais redevable de ça, des gens qui me faisaient confiance, qui me donnaient beaucoup d'argent à l'époque et qui attendaient de moi des résultats comme Borg pouvait en avoir, gagner Wimbledon en vrai, enfin. Donc ça m'a le fait de, même si j'étais 10e mondial, de pas avoir remporté des grands chelems, tout le monde pensait que j'allais le faire, ça m'a mis j'avais l'impression de décevoir un petit peu et ça m'a rajouté de la pression, mais c'était aussi une fierté. Et aujourd'hui mes enfants, et je suis assez fier de montrer que j'avais ma raquette à un moment, que j'avais des chaussures à un moment, et que voilà, c'est par rapport à c'est rigolo.
Quel était ton point faible du coup de l'époque? Tu m'as parlé de ton coup fort, et à l'inverse?
C'était ce manque de relâchement. J'étais obligé de vraiment mettre beaucoup d'énergie dans chaque coup pour arriver à avoir du rendement. Donc c'était surtout ça. Dans la période où quand j'ai battu Vilander par exemple en finale à Barcelone, j'avais compris qu'en fait il fallait couper les trajectoires, essayer de prendre la balle plus tôt, et j'ai eu du mal à le comprendre, ça. Enfin, j'ai mis jusqu'à 22-23 ans pour le comprendre, d'aller vers le rebond et de prendre la balle tôt. Donc, je prenais la balle un petit peu tard et je jouais un petit peu loin de ma ligne de fond de court. C'était plus sur les schémas de jeu et cette capacité à utiliser ma vitesse de jambe pour attaquer, mais pas seulement pour défendre.
C'était quoi le déclic pour le comprendre sur les trajectoires, justement?
C'était la raquette. En fait, le fait de jouer avec une raquette plus grande, avec un tamis plus grand, ça autorise les décentrages de balles. Parce que lorsqu'on va vers le rebond, qu'on prend la balle tôt, le moindre petit forbond, si on a mal jugé l'effet de la balle, avec la raquette en bois, la petite raquette, on faisait ce qu'on appelait des bois. Et donc, avec la grande raquette, ça encourageait ça aidait cette capacité à prendre la balle plus tôt. Et puis, de voir que j'arrivais pas à gagner contre les joueurs qui jouaient comme moi, mais en prenant la balle plus tôt. Type Vilander, type Lendl, ce genre de joueurs-là.
Qui était ta plus grosse bête noire du circuit à l'époque?
Yannick Noir, sans hésitation. C'est le joueur que j'ai joué le plus souvent. Je crois qu'on s'est joué 15 fois sur le circuit et j'ai gagné 0 fois. Il aimait bien jouer les joueurs de fond de court, il battait souvent Vilander d'ailleurs, il a battu Lendl souvent, et en plus il avait une espèce d'emprise psychologique sur moi. Les quelques fois où j'étais à 2 points de le battre, je me rappelle une demi-finale, c'était Palm Springs, ce qui est devenu Indian Wells, il me parlait au changement de côté, c'était mon grand frère, il avait une autorité sur moi, et j'arrivais pas à me détacher de ça, donc j'avais peut-être un peu trop de respect pour lui, et j'arrivais pas à le battre.
Il te racontait quoi, changeant de côté?
Il me disait ça de me faire rire, il me disait, tu crois que c'est cette fois-ci que tu vas me battre, mais ça n'arrivera pas, ou des choses comme ça. Et en revanche, Yannick, il a été un énorme moteur pour toute notre génération. C'était un monstre de travail, quelqu'un de très positif, qui nous a donné un état d'esprit qui nous a. On lui tire tous un gros coup de chapeau. Toute la génération, Henri Lecomte, Guy Forget, Tariq, Ben Abiles, on était tous derrière lui, mais il nous tirait vers le haut, cette capacité à. Il nous a fait comprendre qu'il fallait travailler dur, il fallait travailler avec beaucoup d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui nous a vraiment tiré vers le haut, Yannick.
C'est lui qui t'a mis la plus grosse branlée sur le circuit, ou c'en est un autre?
Non, c'en est plusieurs autres. J'ai joué contre Guillermo Vilas en 82, justement, en Coupe Davis en Argentine, et j'étais persuadé que j'avais la tactique pour le battre. De le battre à son propre jeu, et finalement j'avais pris une rouste. J'avais pris 6-2, 6-2, 6-1, alors que j'avais annoncé que j'avais la tactique pour le battre. Voilà, certains matchs contre Lendl aussi, qui étaient durs parce que bah, il avait un jeu qui ressemble un peu au mien, mais en étant beaucoup plus fort. J'ai pris quelques roustes. Voilà.
Ouais, le joueur sur lequel tu avais le plus l'ascendant et que tu as le plus martyrisé, c'était lequel?
Alors, Henri Lecomte, je l'ai tout le temps battu, sauf une fois en finale à Genève. J'ai battu très, très souvent Henri. J'avais vraiment un jeu pour le gêner. Et j'ai battu souvent Mats Wilander, alors qu'il était beaucoup plus fort que moi. Il était souvent numéro un mondial quand je l'ai battu. Et j'ai réussi à le battre souvent. Donc, c'était peut-être les deux joueurs.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Qu'on connaît, enfin que les gens connaissent, qui me plaisait bien.
C'est un sentiment de fou, j'imagine, de dire que tu bats le meilleur joueur du monde à cette époque-là. Qu'est-ce que tu ressentais en sortant du cours en disant « putain, je me suis tapé le numéro 1 ».
C'est effectivement un sentiment extraordinaire, surtout le battre dans un grand tournoi. C'était incroyable, et puis ça donne de la confiance, parce qu'en fait ce sont des matchs références qu'on utilise tout le temps lorsqu'on n'est pas bien. On se dit, on essaie de se rappeler, de bien garder les images en tête, que ce soit les schémas de jeu, que ce soit juste le fait d'avoir gagné. On se dit, si je l'ai fait une fois, donc ça veut dire que je peux le refaire. Et donc ce sont des matchs références et des moments références pour quand on est moins bien, de se remettre dans un état d'esprit positif.
Quel a été ton plus gros pétage de plomb en tant que joueur sur un court?
J'en ai jamais eu. J'ai jamais eu. Alors j'ai une carrière assez courte. Hein, j'ai joué 10 ans, mais j'ai jamais eu aucun pétage de plomb. J'ai jamais jeté ma raquette. J'ai jamais crié. Non, j'étais un peu comme. Enfin, mon idole c'était Borg. Donc Borg, il disait pas un mot. Et c'était vraiment ça mon modèle. Et donc j'ai jamais cassé une raquette ou jeté ou pété un plomb. Mal parler à un arbitre.
Et t'intériorisé ou c'était juste pas du tout, t'étais totalement indifférent à ce sentiment-là?
J'ai compris très jeune, lorsque je te disais que j'avais compris que physiquement j'étais peut-être, ça allait être la qualité qui allait me rendre meilleur que les autres. Et mentalement, j'ai compris aussi très rapidement que même si j'avais pas les qualités de main, de talent tennistique, autant que les autres. En revanche, fermer sa bouche pendant qu'on jouait, être positif, s'encourager, rien montrer à l'adversaire, j'ai compris que c'était une force énorme et qu'il y avait peu de joueurs qui arrivaient à le faire. C'est aussi ça qui m'a permis de devenir un bon joueur, c'est de comprendre très rapidement, très jeune, que l'aspect mental, que l'attitude positive, que ne rien montrer à son adversaire quand on est en difficulté, ça, c'était une arme aussi. Là, il en parle très bien, il en parle beaucoup et j'utilise souvent ces déclarations lorsque je coach aujourd'hui, parce que je suis convaincu que de toute génération et de tout sport confondu, c'est le mental et l'attitude fait la différence.
Tu parles de Nadal, tu citais Nadal ?
Nadal, ouais. Raphaël Nadal, il le dit souvent, hein, il dit que lui, ce qu'il aimerait qu'on retienne de sa carrière, c'est plus d'avoir été un exemple pour les jeunes que son palmarès.
Ouais, c'est incroyable. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur un tournoi ou sur un match en particulier?
Moi, il y a un événement qui m'a marqué. C'est lorsque je suis arrivé... je devais faire une exhibition au Liban, à Beyrouth, alors qu'il y avait la guerre. Et il y a eu un cessez-le-feu pendant 6 mois. Et lorsqu'on était en vol, je lis, j'ouvre le Figaro... Et c'était écrit « Reprise des hostilités à Beyrouth ». Lorsqu'on a atterri, il y avait les mirages de l'armée française qui nous ont escortés jusqu'à ce qu'on atterrisse. Et il y a des chars qui sont venus chercher un bout de piste et on a dormi dans des abris. Et c'est le voilà, je partais pour faire un match de tennis et finalement, j'étais en pleine guerre. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Sinon, après, des galères, pas vraiment, mais des choses marquantes. Quand on a joué l'Argentine à Buenos Aires, c'était plus sur le central, je me rappelle, de ce club à Buenos Aires où Villas n'a jamais perdu un match. J'ai joué contre Villas et il y avait une atmosphère de match de football, c'était incroyable. Donc dans ces moments-là, on se dit, enfin moi j'étais très jeune, j'avais un petit peu la trouille de que ça devait jamais quoi. Et enfin voilà, c'est sinon pas vraiment de galère, j'ai toujours voyagé, je touche du bois parce que ça fait 40 ans que je fais le circuit. Ouais. Et j'ai à part cette histoire
à Beyrouth.
À Beyrouth, j'ai jamais eu de galère ni dans l'avion ni non.
Est-ce que tu te souviens du meilleur match de ta vie, le jour où tu étais vraiment dans la zone et tu étais intouchable?
Bah, ce match contre Vilander à Barcelone en finale, ouais. J'ai gagné 6-0 au cinquième et au cinquième, je volais.
Combien au cinquième, tu dis ?
6-0.
Et tu lui mets une bulle, parfait.
C'est comme si, pourtant, je sais pas, c'était peut-être la quatrième heure de jeu, je courais partout, je réussissais tout, je servais des aces.
Comment tu l'expliques ça ?
Bah, je pense qu'en fait, c'est cette espèce de lâcher prise qu'on obtient quasiment jamais. Le cerveau il lâche prise et tout se fait par automatisme, par instinct, et c'est vraiment on est dans la zone, on est dans l'instant présent, ça arrive pas souvent et c'est assez dur de la retrouver, cette zone. On a souvent des nœuds dans la tête et le fait qu'il y a certains jours comme ça, peut-être la fatigue joue un rôle important.
Ouais, c'est vrai. À l'inverse, ta pire prestation, tu t'en souviens?
Ouais, c'était pas très important, c'était pas très grave, mais je me rappelle, on faisait une tournée avec Yannick Noah, Guy Forget, il y avait Ronald Agenor en Afrique. On faisait une dizaine de dates d'exhibition. Et un soir, on jouait, il y avait peu de lumière. On était sortis tous les soirs, j'étais fatigué. Je crois que j'avais bu un peu trop. Et j'arrivais plus à jouer. Mais je n'arrivais plus à jouer. Et Guy Forget, contre qui je jouais, il me donnait la balle, mais j'arrivais même pas à... Et là, j'étais. Les gens, ils rigolaient parce que. Pourtant, j'essayais. Je bougeais mes jambes, j'essayais de me maîtriser, mais j'arrivais plus. Comme un débutant, c'était drôle parce que. Enfin, moi, j'avais peur d'être ridicule finalement. Comme c'était un match d'exhibition, ça avait fait rigoler tout le monde, mais j'arrivais plus à lancer ma balle au service. Comme si mon cerveau, il avait tout oublié.
Ça a été ça finalement ta plus grosse fiesta sur le circuit entre guillemets, même si c'était une tournée d'exhibition?
Ouais, bah là on faisait on a fait 15 jours de fête, c'était génial, mais bon, il fallait quand même qu'on assure le soir parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait nous voir jouer. Il y avait Yannick qui jouait, donc lui c'était à l'époque même encore aujourd'hui, mais une méga star. Puis nous aussi on était, enfin les Africains, l'Afrique noire n'avait pas beaucoup de, n'avait jamais la possibilité de voir des joueurs en vrai, du tennis de haut niveau en vrai, donc il fallait qu'on leur montre quand même des belles choses. On essayait d'être sérieux, mais la fatigue accumulée, j'arrivais plus à jouer.
Quelle était la blague la plus dingue à laquelle tu as assisté dans un vestiaire?
Michael Laudra, il s'est caché dans un casier, alors je me rappelle plus si c'était peut-être le casier de Federer, et ouais. Il était resté une demi-heure à attendre que Federer il ouvre son casier. Et là, il a hurlé et ça avait fait rigoler tout le monde. Federer, il a eu peur. C'était voilà. Puis après, bon, il y a des scènes qui me resteront gravées, mais c'est plus de quand je coachais par exemple Sébastien Grosjean à Wimbledon. Il a joué la demi-finale contre, il a joué demi-finale à Wimbledon. Il en a notamment une contre Federer. Et il y a eu 8 ou 9 interruptions par la pluie. Et au bout de la 7e, il rentrait dans le vestiaire. Et là. Il pétait les plombs. Et je me rappelle que, alors qu'au début du match, bon, bien sûr, ils étaient chacun de leur côté dans le vestiaire en train de se concentrer. Première interruption, chacun reste dans son coin. Deuxième interruption, bon, ça fait chier. Troisième interruption. Au bout de la 7e, il commençait à se chahuter dans le vestiaire, à se rouler par terre, à se mettre des gifles. Alors, on était demi-finale de Wimbledon, mais c'était hallucinant. Et moi, je disais à Seb, mais arrêtez, c'est pas... comme deux gamins qui pétaient, enfin, qui avaient complètement perdu l'objectif en tête de gagner la demi-finale de Wimbledon et de voir Federer comme ça, c'était un grand moment.
Quel a été le score final de ce match?
Ça a fait 3-7 pour Roger Federer.
Quel était le joueur le plus fou de ton époque?
Moi, j'ai joué dans les années 80 et au début des années 90. Au début de ma carrière, il n'y avait que des fous. Enfin, que des fous, que des joueurs charismatiques, mais à un point... Même les joueurs un peu moins bien classés, je sais pas si je te dis, bon, McEnroe, bien sûr, tu connais, mais Gary Lettis, alors lui, il était fou dans le sens où c'était le show business, il avait une Rolls Royce dans chaque tournoi, je sais pas comment il faisait, avec plein de nanas dedans. Il y avait Panatta, il y avait Pecci, il y avait des joueurs comme Connors, puis après, il y avait des joueurs un peu, Nastase, incroyable Nastase, Mais les mecs, ils faisaient des trucs, c'était comme des stars de cinéma, en fait. Et sur le court et en dehors du court, ils avaient un espèce de charisme, ils étaient drôles. Donc, il y avait vraiment tellement de joueurs avec une personnalité incroyable qui faisaient des choses incroyables en dehors du terrain. Et j'ai vécu un rêve, là. Moi, je me mettais dans le Players Lounge ou dans le vestiaire, dans un coin, et pendant un an, je les regardais. C'était incroyable comment ils étaient, le soir j'essayais d'aller manger avec eux parce qu'à chaque fois, un soir il y avait les Rolling Stones, le lendemain il y avait un acteur incroyable, enfin c'était hallucinant. Dans les années 80, c'était le lien entre les joueurs de tennis et le cinéma, le show business, les chanteurs, tout le monde se connaissait. On arrivait dans une grande ville aux États-Unis et on voyait Sting avec nous, enfin. C'était très impressionnant, alors qu'aujourd'hui il y a moins ça, chacun est plus avec son équipe, dans sa bulle.
Ces mecs là ont déteint un peu sur toi, sur ta personnalité? Tu sens que tu t'es ouvert à leur contact ou pas forcément?
Ouais, c'est au début, lorsque je suis arrivé sur le circuit, j'avais comme modèle Borg qui était vraiment dans sa bulle, qui parlait à personne, et puis le fait d'être proche, j'ai joué beaucoup en double avec Nastas par exemple à l'époque, qui était complètement à l'opposé, et je me suis construit avec en regardant ce qui se passait, et ça m'a vraiment ouvert. Puis bon, j'ai découvert des gens incroyables, même en dehors du tennis, grâce à cette génération qui était tellement ouverte, en fait. Cette génération de joueurs de tennis qui était tellement ouverte. Ben, Yannick en est le symbole, hein. Yannick, on était en même temps sur le circuit à ce moment-là. Et Yannick, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est devenu chanteur. C'est qu'en fait, on avait la possibilité et la chance de côtoyer tous ces artistes qui nous ouvraient grand leur univers.
T'es resté pote, toi, avec des gars comme Sting ou des acteurs que t'as pu croiser sur le circuit à cette époque-là?
Moi, le truc, c'est qu'en fait, le fait d'avoir continué à voyager après ma carrière, d'avoir continué à coacher, donc à voyager sur le circuit, c'est pas facile de garder des contacts, mais non, j'ai pas gardé des relations proche, je les connais, mais pas proche.
En termes de comportement et de manière de faire globalement, le joueur le plus chiant à ton époque, c'était lequel?
Il y a un joueur qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Horst Skoff. Lui, personne ne pouvait le voir. C'était vraiment une plaie, parce qu'il était antipathique et en match et dans le vestiaire et partout. Il y avait Ivan Lendl qui était très antipathique. Il n'était pas du tout aimé du circuit. Et bizarrement, lorsqu'il a arrêté, il est devenu très sympa. Là, actuellement, il y a des joueurs qui sont pas trop aimés, qui n'étaient pas trop aimés. Enfin, bon, de chaque génération. T'as des mecs, en fait, qui pensent que, comme on n'a que des adversaires dans le vestiaire, bah, il faut être sympa avec personne.
Le meilleur conseil que tu aies reçu en tant que joueur, tu t'en souviens?
Ouais, je m'en souviens très très bien. C'est un conseil que j'ai reçu de Henri Cochet quand j'étais très jeune. Je me rappelle très bien l'endroit, c'était au Racing Club de France. Henri Cochet, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup au tennis, bien sûr, mais aux jeunes qui arrivaient. Donc lui, bien sûr, il ne jouait plus. Mais il m'a dit, si je peux me permettre de donner un conseil, Thierry, tu seras un grand joueur quand tu auras compris qu'il fallait accepter de gagner en jouant mal. Et gagner en jouant mal, c'est un conseil que j'ai bien sûr pris pour moi, mais que je donne à tous les jeunes et je leur dis d'où ça vient, parce que tout le monde est frustré de mal jouer, et on joue mal presque tous les jours, et de gagner en jouant mal, c'est la base. Henri Cochet.
T'avais lu Winning Ugly de
Brad Gilbert, ouais. J'en parle même encore aujourd'hui avec lui, parce qu'il est sur le circuit, il travaille pour la télévision. Il a la science du tennis, parce qu'il a compris ça dès le début. Il a compris que c'était pas flamboyant tous les jours, et qu'il fallait exploiter tout ce qu'on pouvait exploiter. Et que parfois, et même très souvent, les schémas de jeu, c'était pas la flamboyance. Quand on regarde d'ailleurs Djokovic jouer, il fait pas souvent des coups exceptionnels. Il fait souvent le coup juste, tout le temps le coup juste, mais le coup qui va faire le buzz, et il le fait pas souvent. Voilà. C'est winning ugly, gagner en jouant mal.
Ouais. Ton tournoi préféré de l'époque, c'était lequel?
Roland Garros, ça l'est encore aujourd'hui. Tournoi de Roland Garros. Ouais.
Le rêve qui t'animait vraiment en tant que joueur, qui te faisait t'entraîner si fort, c'était quoi?
Ouais, c'était ce cours Philippe Châtrier, et les matchs que j'ai pu faire dessus, et de tout faire pour en rejouer un supplémentaire. Donc ça m'animait. Et puis à l'époque, c'est dommage, ça a disparu, mais de jouer la Coupe Davis, être dans l'équipe de France de Coupe Davis, c'était quelque chose pour moi de plus important que tout. Plus important que tout, que ce soit un premier tour, mais faire partie de l'équipe de France, être dans les quatre, et puis de jouer le match, c'était quelque chose qui j'en rêvais, et même j'en fais encore des rêves aujourd'hui. Et je rêve que je suis sélectionné, que je suis pas prêt. Alors c'est plus un cauchemar.
C'est énorme. Pourtant, t'es assez tanké physiquement. J'ai vu une vidéo où tu coaches des joueurs de rugby à Nevers. Et c'est marrant, ça m'a fait rire parce que je suis de Nevers. Et physiquement, on sent que t'es affûté quand même. Hein. Franchement, tu rêves que t'es pas prêt, mais.
Mais... Non, mais le sport fait partie de ma vie et je fais du sport tous les jours. Donc j'essaye de. Puis lorsqu'on coach, je suis aujourd'hui entraîneur. Lorsqu'on entraîne, si on est en forme, c'est beaucoup plus agréable. On fait plein de choses avec les joueurs. On peut ressentir un petit peu ce qu'eux ressentent. Pour communiquer avec eux, c'est aussi dans les moments où quand les joueurs nous voient nous dépasser à notre niveau, même si je suis un peu vieux aujourd'hui, ils voient qu'on est dans le même bateau. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand on a la chance de rester en forme. Mais ça demande un petit travail.
Tu penses que tu joues combien aujourd'hui?
Je joue plus dans le sens où je fais plus de service ni de retour. Mais bon, je tape bien dans la balle, donc j'ai aucune idée de mon niveau de jeu.
Tu joues encore un bon zéro en termes de qualité de frappe et de régularité, non?
Probablement, ouais. Ça doit être ça mon niveau, ouais.
Dans ta carrière de joueur, le coach qui t'a le plus marqué et pourquoi?
Le coach qui m'a le plus marqué, c'est Eric Deblicker, qui était entraîneur national. Et en fait, il parlait très peu, Eric. Il a dû me dire deux fois « allez ». Non, j'exagère, mais pour que je vois, que j'arrive à lire dans ses yeux de la surprise ou de l'admiration, il fallait que j'aille très très loin dans le travail, que je repousse loin mes limites. Et j'avais pas besoin qu'on me dise aller au bout d'une heure ou au bout de deux heures, j'avais besoin de l'entendre une fois. Donc en fait, c'était quelqu'un qui parlait peu et bon, il avait la science du tennis. Enfin, il est encore vivant et il connaît très très bien le tennis. Et surtout, il arrivait à sentir ce qui était bien pour moi, pour tout en fait, que ce soit dans ma vie d'homme ou sur le terrain ou dans ma programmation. Donc Eric Deblicker, c'était le coach qui m'a le plus marqué.
J'ai vu sur ta fiche ATP que tu avais gagné 1 058 412 $ de prize money pendant ta carrière de joueur. Quel regard tu portes sur ce montant, sur ces gains?
J'ai eu la chance de bien gagner ma vie. Alors à l'époque, dans les années 80, on gagnait plus avec nos contrats d'image qu'avec les prix dans les tournois. Et on jouait aussi beaucoup d'exhibitions qui n'existent plus trop aujourd'hui. J'ai eu la chance aussi de me marier très jeune, d'avoir des parents qui m'ont aidé à garder la tête sur les épaules. Donc du coup, en fait, j'ai fait des placements de père de famille, voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai mis de l'argent de côté qui me permette de voir venir, même d'arrêter de travailler si je le souhaitais. Et je suis très fier d'avoir gagné cet argent-là. J'ai pas du tout le sentiment j'ai le sentiment d'être privilégié, mais aussi le sentiment de l'avoir mérité, puisque les gens payaient leur place pour venir me voir jouer, et j'ai travaillé dur pour le gagner. Donc voilà, si la question c'est est-ce que j'ai pas le sentiment d'être tombé à une mauvaise époque et qu'aujourd'hui j'aurais gagné peut-être 20 fois plus? Si, bien sûr, mais je pense qu'il faut, enfin, je suis quelqu'un qui regarde toujours le verre à moitié plein, donc j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir fait un sport professionnel, d'avoir bien gagné ma vie avec ma passion qui est ce sport professionnel, et donc je suis pas du tout amer de pas avoir gagné plus. Au contraire, je suis très content d'avoir gagné de l'argent jeune et d'avoir mis de l'argent de côté qui permettent aujourd'hui à moi et ma famille de voir venir.
Est-ce que tu te souviens la première fois où tu as encaissé vraiment ton premier gros chèque et ce que tu as ressenti?
Pas du tout. Non, non. Moi, j'ai pas du tout eu le sentiment. Enfin, je me rappelle pas d'avoir pensé, mais ne serait-ce qu'une seule fois, à l'argent que je gagnais en fait. Moi, j'avais un agent à l'époque, c'était McCormack, qui s'occupait de moi bien, qui s'occupait de tout, qui m'expliquait ce qui se passait, mais je pensais qu'au point ATP, qu'à gagner des tournois, qu'à gagner des matchs, et pas du tout à l'argent. Donc, dans les tournois, lorsqu'on gagne des matchs et lorsqu'on part du tournoi, en fait, on reçoit un virement. Moi, je m'occupais de rien. J'avais mon comptable qui me faisait chaque mois un débrief de ce qui s'était passé dans le mois. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment pas du tout ça le moteur. Donc, ça m'a jamais vraiment ni mis de la pression, ni mis en joie de gagner plus d'argent dans un tournoi que dans un autre.
Donc finalement, t'as jamais eu un gros craquage en te disant bon bah maintenant je suis arrivé à l'aisance, à l'autonomie, je peux me le permettre. Tu t'es jamais trop enflammé suite à tes gains, quoi.
Non, mais je me suis enflammé dans le sens où quand même, à l'époque on faisait un espèce de concours avec Yannick, Noah, Henri Lecomte, Guy Forget sur celui qui avait la plus belle voiture. Donc on voilà, c'était les années 80-90 où on flambait un tout petit peu avec ça. Donc ça, c'est peut-être de l'argent qui était un peu gaspillé. Mais on était jeunes, donc on avait juste ça. Sinon, non, j'ai jamais vraiment les seuls trucs que je dépensais, c'était pour les voyages. Je voyageais beaucoup j'ai pris le Concorde plusieurs fois. Je voyageais dans de bonnes conditions. Moi, j'avais compris qu'en fait, l'argent, c'était fait pour aussi être à l'aise et bien récupérer. Moi, je voyageais dans des beaux hôtels avec ma femme, en Concorde et la première classe.
À l'époque. Le modèle de voiture où tu t'étais lâché un peu, c'était lequel?
Non, mais on avait Porsche, des Mercedes, des Audi, voilà. Il y avait un truc, ouais, juste, c'est rigolo, mais à l'époque, en fait, on avait le droit de rentrer avec notre voiture dans le stade Roland-Garros pour on les garait devant notre cour. Et le truc, c'était de garer notre belle voiture devant, à l'époque, la porte 13, ce qui s'appelait. Donc, c'était en plein milieu de Roland-Garros. Et quand on ouvrait y arriver, on sentait qu'il y avait le regard qui était un peu envieux. Et c'était vraiment un petit peu un concours entre nous tous. Mais c'était idiot. Bon, pour que les gens comprennent, on avait entre 18 et 22 ans, donc c'est devenir célèbre et riche tout à coup comme ça, forcément, on fait des choses, on s'en rend pas bien compte.
Du coup, quelle est toi ta définition de la richesse ?
Pour moi, la richesse, c'est cette capacité à partager humainement avec les gens, que ce soit les gens qui sont proches ou même les inconnus. C'est un sourire à un inconnu ou dire je t'aime aux gens qu'on aime, cette capacité à partager l'amour. Moi, c'est tout bête, hein, ce que je dis, mais c'est vraiment ça la richesse. Que je connais plein de gens très très riches que je sens pauvres à l'intérieur, et à l'inverse, je connais des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui sont super, avec qui on a envie d'être, parce qu'ils sont riches à l'intérieur, parce qu'ils sont généreux dans leur attitude. Pour moi, c'est ça la richesse.
Tu disais que ta femme te suivait pendant ta carrière de joueur. Vous étiez le plus souvent, vous voyagiez à deux, ou elle avait un métier à côté? Comment tu gérais ça?
Non, ma femme, elle a arrêté les études juste avant le bac, parce que si on voulait être ensemble, il fallait qu'elle puisse voyager. Donc ses parents m'ont fait confiance et elle venait souvent avec moi, quasiment tout le temps, surtout dans mes premières années de carrière. Et c'était pas évident à gérer parce qu'elle a sacrifié, et c'était risqué aussi parce que le fait d'arrêter ses études, si jamais on restait pas ensemble, c'était tout à reconstruire pour elle. Donc c'est un sacrifice qui a été qui a été bénéfique à la fin, parce qu'on a fait de beaux enfants, on est toujours ensemble, mais c'est une belle histoire.
Merci d'avoir écouté cette première partie avec Tutu, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, venez nous le dire en commentaire tout de suite. Tant que c'est chaud, ça nous motive, ça nous aide, c'est tout bénef. Je vous le dis chaque semaine, mais la survie de ce podcast en dépend, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est la plateforme où tout se passe. Vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur YouTube, surtout continuez, mais faites-le aussi sur cette appli, parce que ça nous permet d'avoir des invités de renom et de vous régaler. Une autre tactique qui marche fort, c'est le bouche à oreille. Envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone, comme ça on est peinard. Pensez à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu. et avoir des schémas plus clairs sur le court grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat, Fabs Barreau. Premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Je vous invite à découvrir l'épisode. Jean-Philippe a coaché 12 top 100 et c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien, lui aussi dans la description. Il nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur ce podcast, c'est environ 15 heures de travail par épisode. Nous soutenir nous encourage à tout donner pour vous régaler chaque mardi, donc chaque semaine. Si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire, c'est vraiment adorable, ça me touche, ça fait chaud au cœur, bref, vous régalez. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous les légendes. Merci pour vos bonnes ondes et à très vite. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.